Alors, pendant que les enfants vont descendre, courbons-nous dans la prière pour que vraiment le Seigneur vienne ouvrir nos cœurs, qu'il vienne nous préparer à entendre sa parole. Éternel mon Dieu, nous venons devant toi ce matin humblement. Notre désir ici, c'est pas de rencontrer une pasteur. Notre désir, c'est pas de voir un spectacle, d'entendre la musique, c'est de te rencontrer, toi, Seigneur, à travers ta parole, à travers la communion qu'on va avoir ensuite. Seigneur, à travers la louange, ce matin, rends-nous réceptifs à ta parole, Père. Viens briser en nous tous les obstacles qui font en sorte que notre cœur est peut-être distrait ou que notre cœur est préoccupé par autre chose. Seigneur, nous voulons être disposés. Alors viens et agis par ton Esprit Saint, nous te prions. Amen. Alors ce matin, c'est mon privilège, c'est mon plaisir d'être avec vous. C'est mon plaisir qu'on puisse regarder ensemble la parole de Dieu. Dieu nous a bénis abondamment en nous confiant sa parole. Et ce matin, on est dans le chapitre 12 d'Exode. Nous sommes appelés à être sauvés, nous, nos enfants et tous les autres. Vous le saurez si vous avez été avec nous dans les dernières semaines. On a regardé différents textes, notamment Exode, le chapitre 7 d'Exode jusqu'au chapitre 11. Et si vous nous visitez ce matin, peut-être pour la première fois ou vous avez manqué certains de ces dimanches-là, j'aimerais faire un petit retour bref pour voir qu'est-ce qu'on a appris de la parole de Dieu ensemble. Vous saurez que ce sera un récapitulatif très bref, tout simplement parce que, bon, ce serait difficile de résumer autant de chapitres de la parole de Dieu comme ça dans un claquement de doigts. Quelques points saillants que j'aimerais qu'on voit ensemble ce matin. Le premier, c'est celui-ci. Dieu s'est révélé à tous à travers les 9 plaies d'Égypte et l'obéissance de Moïse et d'Aaron. Vous vous souviendrez, lorsque j'ai prêché sur les chapitres 7 à 10 d'Exode, on a regardé ensemble, en fait, comment Dieu nous appelait à témoigner. On a vu comment il a pourvu vraiment avec un modèle dans la personne et le travail d'équipe, en fait, d'Aaron et de Moïse ensemble. Dieu, à travers eux, a établi son témoignage partout en Égypte, pas seulement auprès de Pharaon, mais auprès de ses serviteurs, auprès des magiciens et auprès de tout le peuple d'Israël qui a reçu ce témoignage-là de la puissance de Dieu, la puissance de Dieu qu'on voit à l'œuvre à travers les plaies d'Égypte. Là, si vous êtes un petit connaisseur, vous allez me dire « Attends un petit peu, Mélodie, 9, il n'y en avait pas 10 des plaies d'Égypte? » Évidemment, il y en avait 10, mais ils ne sont pas contenus dans ces chapitres-là. Donc, on voit la plaie finale dans le chapitre-là d'aujourd'hui, qui est le chapitre 12. Donc, dans le chapitre 11, le Seigneur l'annonçait à Moïse, et c'est dans ce message-là que Pasteur Marc nous a parlé, en fait, du fait que Dieu nous montre sa faveur, mais pas à cause de nos mérites. Il nous a rappelé à quel point l'aide de Dieu, elle est essentielle pour attendrir notre cœur, pour recevoir le salut. En d'autres mots, si nous, ou du moins j'espère, la majorité ou la totalité d'entre nous sommes sauvés, c'est pas parce qu'on est spécial puis on peut dire « Ah oui, moi, je me suis sauvé ». Non, nous avons reçu le salut de Dieu et nous avons reçu son aide aussi pour le recevoir. Donc, la grâce de recevoir la nouvelle naissance, le salut. C'est ce qu'on a appris ensemble. Et aujourd'hui, dans le chapitre 12 d'Exode, on entre dans un moment spécial. Et ma foi, ce moment-là spécial, vous verrez, ça se passe autour d'un repas. Un peu comme le moment spécial qui s'en vient pour nous, qu'on va partager autour d'un repas, ce repas-là de la Sainte-Cène. Ce repas-là, c'est la Pâque juive. Donc, vous voyez ici une petite illustration là, d'un repas de la Pâque juive. Et puis, la Pâque juive contenait plusieurs symboles, des symboles qu'on verra dans ce chapitre-ci. Certains que je veux vous pointer ce matin sont les suivants. Donc, premièrement, Moïse dira au peuple, « Tu prendras un agneau sans défaut. » Donc, le peuple était appelé à choisir un agneau sans défaut. Ensuite, voici ce que Dieu dit à travers Moïse, « Tu marqueras ta maison du sang de l'agneau. » Donc, les gens devaient mettre ce sang de l'agneau sur les linteaux, les côtés de la porte, donc vraiment faire un peu comme une arche avec le sang de l'agneau. L'autre symbole que l'on voit, c'est « tu mangeras du pain sans levain ». Donc, c'est vraiment le commandement que Moïse va dire à chaque Israélite, « tu dois manger du pain sans levain ». Et finalement, un dernier symbole qui n'est pas là un ordre que Moïse a donné au peuple, mais plutôt une réalité qu'on voit reflétée dans le texte. Et c'est celle-ci que j'aimerais vous montrer aujourd'hui. Tu quitteras la captivité avec ta famille et ceux qui voudront te suivre. Un peu mystérieux, là, vous me dites, ah, c'est où ça dans le texte? On va voir ça dans pas très longtemps. Donc, je vous présente un peu qu'est-ce qu'on fait, mais on va aller dans la parole de Dieu aussi ce matin. Vous savez, j'aime beaucoup lire la parole de Dieu dans sa totalité. Par contre, comme le chapitre 12, c'est quand même un chapitre assez long, on ne va pas le lire dans sa totalité ce matin. Je vous invite à faire cet exercice-là, en fait, à la maison. C'est bien quand on entend un message de la parole de Dieu, de s'asseoir, d'écouter la parole de Dieu, mais il y a une expérience spéciale aussi quand on prend le temps à tête reposée de relire la parole de Dieu pour soi-même à la maison. Donc, je vous invite à faire cet exercice-là peut-être aujourd'hui ou durant la semaine, retourner et lire dans le livre d'Exode. Si vous avez déjà lu le chapitre 12, vous saurez qu'il y a autre chose, d'autres commandements que ceux-ci que Moïse donnera au peuple d'Israël. Ceci dit, ce matin, je ne veux pas aller dans tous les détails nécessairement de la célébration de la Pâque juive, mais je veux pointer vers nous certains détails qui sont d'actualité pour nous, certains détails qui vont nous aider à entrer dans une autre forme d'adoration qui est la prise du repas du Seigneur alors qu'on terminera le message aujourd'hui. Donc, commençons avec la parole de Dieu dans Exode. Donc, voici ce que le livre d'Exode nous dit au verset 3 à 6 et au verset 46. « Le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois où toute l'assemblée d'Israël le sacrifiera au coucher du soleil. Vous ne briserez aucun de ses os. Vous prendrez un agneau sans défaut. » Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Est-ce que dans la Bible, on a d'autres symboles d'agneaux sans défaut? Jésus, effectivement, et on s'en ira là. Y es-tu pas beau, ce bel petit agneau-là, n'est-ce pas? Le peuple d'Israël était appelé à célébrer, éventuellement, ce que le chapitre 12 nous apprend, la fête de la Pâque, et ce devait être le premier mois de l'année. Donc, on commence l'année juive avec une célébration de la Pâque. On prend un agneau, un jeune agneau. Est-ce qu'il n'est pas beau? Il est beau, hein? Ça nous donne-tu envie de le sacrifier? Pas tant, hein? Pas tant, hein? On le ramène chez soi, on le garde pendant 4 jours. On commence-tu à s'attacher après 4 jours? Un symbole qui déjà était présent dans l'Exode. Un sacrifice innocent et sans défaut pour chaque famille. C'est vraiment un beau symbole d'innocence, n'est-ce pas? Une autre réalité que les gens commençaient à apprendre à travers le sacrifice, en fait, ou allaient apprendre à travers le sacrifice de la Pâque, c'est qu'il y avait quelqu'un d'autre qui payait pour leur délivrance. Ce petit agneau-là. L'explication de la Pâque continue ainsi. On prendra de son sang, c'est-à-dire le sang de l'agneau, et on en mettra sur les 2 poteaux, et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette nuit-là, je parcourrai l'Égypte, c'est Dieu qui dit ça, et je tuerai tous les premiers-nés du pays. Je mettrai ainsi à exécution mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Pour vous, en revanche, le sang servira de signe sur les maisons où vous vous trouverez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura pas de fléau qui vous détruise quand je frapperai. Aucun de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Le sang servira de signe. Voici ce que le peuple apprend à travers ce symbole-là. Ceci, ceux qui s'identifient à Dieu rendent leur vie différente de ceux de celle des autres par la foi. Je ne sais pas vous, mais moi, si Pasteur Marc me disait, « Mélodie, si vraiment tu veux être sauvée de tes péchés, va te chercher un petit mouton, garde-les chez vous pendant 4 jours, tranche-y la gorge, pogne son sang, puis mets ça autour de ta porte d'entrée de maison. » Je ne suis pas sûre que j'aurais envie de le faire. Pensons-y une minute, là. Ça demandait quand même de la foi aux gens. Ce n'est pas comme s'ils mettaient ça à l'intérieur de leur maison. Là, c'est tous les voisins qui nous voient. Il y avait quelque chose qu'ils avaient besoin de faire par la foi et qui était visible à tout l'entourage. Ils devaient, pour goûter à la délivrance de Dieu, prendre un pas de foi concret, un geste d'obéissance concret. L'une des autres choses qu'on apprend de l'histoire de la Pâque, c'est que l'idolâtrie serait jugée. Hein, quand Dieu dit « Je vais passer en Égypte et je vais mettre à exécution mon jugement sur les dieux de l'Égypte. Mais je vais passer par-dessus ceux qui auraient trouvé refuge sous ce signe. » Dieu veut juger le péché. « Va juger le péché, c'est ce qu'il dit aux Israélites, mais si tu as la foi, si tu démontres ta foi par ce signe, je vais passer par-dessus, toi. Je vais t'épargner du jugement. » Le sang sera un signe. Mais voici, il y a un petit écrit qui est parti. Mais voici qu'il y a autre chose qu'on apprend et qui malheureusement a disparu de mon écran. Littéralement. J'assure, c'était là ce matin. Hein? Donc, une autre chose qu'on apprend, c'est qu'il devait demeurer dans la maison qui était marquée par le sang. Et c'était très dit explicitement par Moïse. Tu marqueras le linteau de ta porte, hein, et les poteaux, mais demeure dans cette maison. Il leur donne un autre commandement. Il leur dit, tu vas veiller. C'est la nuit, là. Je vais passer à travers l'Égypte. Mais toi, je veux pas que tu te couches. Je veux que tu restes éveillé. Non seulement ils devaient témoigner de leur foi par ce symbole, mais ils devaient demeurer dans ce lieu où leur foi était manifestée. Donc, pour être délivré, c'était à la fois quelque chose d'un moment significatif, donc un moment précis dans leur vie, hein, ils appliquent le sang, mais c'était aussi continuel leur délivrance ou leur salut. Pourquoi? Parce qu'ils devaient demeurer à l'intérieur de ce foyer-là qui était marqué par le sang. Intéressant. Alors qu'on poursuit notre lecture dans Exode, voici ce que le texte va nous dire encore une fois. Quand vous le mangerez, c'est-à-dire quand vous mangerez l'agneau, le repas de la Pâque, vous aurez une ceinture à la taille, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez rapidement. La nuit même, le Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les Israélites. Allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. » Les Égyptiens poussaient le peuple. Ils étaient pressés de le renvoyer de leur pays, car ils disaient, « Nous allons mourir. » Le peuple emporta donc sa pâte avant qu'elle soit levée. Donc, ce repas-là de la Pâque, non seulement c'est un repas spécial, mais c'était un repas avec une indication. Hein, il avait une indication qu'il devait manger du pain sans levain, comme on va le voir dans la prochaine diapositive. Donc, il devait manger ce pain sans levain-là, en souvenir, en fait, du moment où Dieu les a délivrés. Dieu a créé pour eux une délivrance qui était rapide. Quand Dieu a dit je sauve mon peuple d'Israël de l'Égypte, il l'a sauvé rapidement et leur a dit soyez prêts. Soyez prêts, je vous sauve, je viens vite à votre secours. Et c'est pour ça qu'il leur a dit de mettre une ceinture et des sandales. Pour nous, ça ne fait pas bien de sens. Moi, je me promène tout le temps en sandales chez moi. Je ne mets pas de ceinture, mais je suis tout le temps en sandales. C'est un petit peu comme si Dieu nous disait, là, maintenant, au mois de février, hein, tu vas manger, mais mets tes bottes, là, puis tes mitaines, là, puis ton gros soud de skidou, là, parce que tu vas manger vite. Soyez prêts. Nous voyons à travers ce symbole-là que le peuple était appelé à vivre en attente de sa délivrance. Non seulement par la foi, ils demeuraient dans leur maison sous le sang de l'agneau, mais ils devaient être un peuple qui vit avec l'espérance, l'attente d'une délivrance complète de ce Dieu qui délivre de l'esclavage. Il devait aussi être un peuple prêt à suivre Dieu à tout moment. Quand Dieu dit « c'est le temps », on est prêt. On a notre ceinture, on a nos bottes d'hiver. Oh, je suis en train de mélanger des époques là, par hasard. Ben oui! Et ils étaient un peuple voyageur sur cette terre. Quel beau symbole pour nous rappeler que ce peuple appartient d'abord à la patrie de Dieu. Au pays que Dieu leur réserve. Ils n'appartiennent pas à l'Égypte. Donc, ton pain sera sans levain. Certainement, il y aurait autre chose qu'on pouvait parler sur ces thèmes-là, mais c'est ce que je voulais pointer pour nous ce matin. Alors qu'on continue dans cette expérience de la fête de la Pâque, on voit une autre réalité. Une fois entré dans le pays que l'Éternel vous donnera conformément à sa promesse, dit Moïse, vous observerez ce rite. Et lorsque vos enfants vous demanderont « Que signifie ce rite pour vous? » Vous répondrez, « C'est le sacrifice de la Pâque en l'honneur de l'Éternel, qui est passé par-dessus les maisons des Israélites en Égypte, lorsqu'il a frappé l'Égypte et sauvé nos familles. » Les Israélites partirent de Ramsès et une foule de gens d'origine diverse partirent en même temps qu'eux. Vous souvenez-vous, lorsqu'on a parlé ensemble du fait que Dieu, hein, quand il a les neuf premières plaies d'Égypte sont arrivées, hein, Dieu a témoigné à travers ces œuvres-là miraculeuses qu'il a fait, non seulement à Pharaon, mais aux Égyptiens, aux magiciens, à tous les Israélites. Vous souvenez-vous qu'il y a des serviteurs de Pharaon qui ont commencé à écouter? Hein, quand c'est venu le temps de la grêle, là, la Bible nous dit qu'ils ont écouté Moïse. Hein, ils ont eu foi en ce que Moïse disait et ils ont rentré leurs animaux à l'intérieur et ils ont rentré leurs serviteurs à l'intérieur. Moi, je trouve ça intéressant parce que dans l'Égypte, hein, il y avait cette connotation-là, des fois que les pharaons étaient dieux. Hein, ils n'étaient pas juste des rois. Il y avait souvent une idée que le divin était attaché au pharaon. Mais même certains Égyptiens ont commencé à se dire « Oh, peut-être que c'est pas tout à fait ça, n'est-ce pas? » Ah, et ils ont commencé à mettre leur confiance dans ce que Moïse disait. Donc, on ne le sait pas, le texte ne nous dit pas s'il y a des Égyptiens qui sont partis avec Moïse, mais certainement nous laisse croire que ce n'est pas juste des gens d'origine israélite, donc pas juste des descendants d'Abraham qui sont partis, qui ont vécu cette délivrance-là, mais qu'il y a d'autres gens qui se sont greffés à eux. Et c'est intéressant parce que ça nous rappelle que le salut, en fait, c'est pour nous, c'est pour notre famille et c'est pour tous ceux qui voudront bien entrer dans le salut que Dieu a prévu pour eux. Et c'est intéressant parce que, oui, Dieu nous épargne lorsqu'il passe par-dessus nos péchés, mais il nous confie aussi la responsabilité, comme on le voit dans le texte, hein, de témoigner à nos proches. Lorsque vos enfants vous demanderont, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Maman, qu'est-ce que ça veut dire pour toi d'avoir reçu Jésus? Mon oncle, ça veut dire quoi pour toi, là, être chrétien? Voici comment vous leur témoignerez. Frères et sœurs, alors qu'on est ici ce matin, prenons exemple sur ce que Dieu a dit aux Israélites. Et finalement, Dieu nous montre déjà à travers l'Exode qu'il se bâtit un peuple sans égard au passé des gens, sans égard à leur origine. Peut-être vous vous demandez ici pourquoi j'ai la photo d'une dame là ici d'origine ou d'ascendance africaine. En fait, c'est intéressant. Il y a plusieurs érudits, si vous voulez, qui croient que l'épouse de Moïse était africaine ou d'origine de cette origine ethnique-là. Parce que on verra un peu plus loin dans le livre de Nombres que Myriam va se plaindre parce que Moïse a pris une femme de coche. Elle est Cushite, elle vient de ce peuple-là, et c'est en fait les ancêtres des Éthiopiens. Alors, Dieu était déjà dans le business d'attirer tous les peuples vers lui, de faire un peuple. Même dans le rituel de la Pâque, on ne l'a pas lu, mais il dira, tu sais, même l'étranger parmi vous qui veut participer à la Pâque, qu'il soit circoncis, il va pouvoir participer, observer le rituel de la Pâque. La Pâque, c'est pour tous. Et Pâques, est-ce que c'est Pâques? Donc, vous voyez Pâques, si vous vous dites, mais pourquoi il y en a un qui a un S, il y en a un qui n'en a pas? On a la Pâque juive, on a la Pâque chrétienne qui ne s'écrivent pas tout à fait de la même manière, qui sonnent absolument de la même manière. C'est pas... Il y a des parallèles. C'est pas, peut-être pas à 100%, mais il y a définitivement des parallèles. Mais ce que nous voyons dans la Pâque chrétienne, c'est ceci, une délivrance qui est plus grande encore. Le peuple d'Israël a été délivré de l'esclavage en Égypte. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient bien, s'ils étaient esclaves, être délivrés? Je pense que oui. Je pense que si nous, on était sous l'esclavage, on aimerait bien être délivrés. Je pense que certains d'entre nous ont des ancêtres qui ont vécu l'esclavage et certainement cette délivrance-là, elle est merveilleuse. Mais la délivrance que Christ nous apporte, elle est encore plus grande. Donc la Pâque juive, c'est l'ombre des choses à venir, de la délivrance à vivre avec Christ. Mais la Pâque chrétienne nous offre aussi de nouveaux symboles. De nouvelles choses qu'on peut tirer du pain et du sang et du vin. Et ce parallèle-là qu'on voit dans les Écritures, on voit Jean-Baptiste qui dira ceci. Jean-Baptiste vit Jésus s'approcher de lui et dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » L'agneau de l'Exode, il les a préservés de la mort du premier-né. Du jugement de Dieu sur le pays d'Égypte. Mais voici l'agneau de Dieu, Christ, enlève le péché du monde. Mais voici comme au temps de l'Exode, nous devons demeurer. Nous devons demeurer sous ce sang précieux. Pierre nous dira ceci, « Conduisez-vous avec une crainte respectueuse pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous le savez, en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmise vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ, qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut, sans tâche. » Amen. Pourquoi je vis la vie chrétienne aujourd'hui? Pourquoi? Parce que j'ai été rachetée. Je vis dans cette vie chrétienne comme obéissance, comme les Israélites sont demeurés dans leur maison qui était marquée par le sang de l'agneau. Parce que j'ai été rachetée d'une manière de vie dépourvue de sens. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui avez connu la vie sans Christ et qui se souvenez à quel point votre vie n'avait pas de sens? Moi, je m'en souviens. Wow! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu qui n'a pas seulement lavé mes péchés, mais qui m'a donné un but dans la vie, qui m'a montré c'était quoi ma vraie identité. Cette délivrance tellement plus grande. Aujourd'hui, j'ai une question très simple. Est-ce que ta vie est sous la protection continuelle du sang de Jésus? Vous savez, dans l'Église, il y a eu beaucoup de débats autour de est-ce qu'on peut perdre son salut, est-ce qu'on ne peut pas perdre son salut, et des théologiens qui chicanent dans leur perspective. Vous savez, pour moi, ce qui est le plus important de comprendre, c'est que la foi qui sauve, la foi qui régénère, la foi qui transporte nos vies dans une autre dimension avec Christ, c'est cette foi-là qui fait en sorte qu'on non seulement on applique le sang de Christ, on reçoit la mort de Christ pour nos péchés, mais on demeure en lui. Comment est-ce que je pourrais recevoir et quitter sa protection divine? Ça n'a pas de sens pour moi. Je veux cette foi-là qui reçoit Christ et qui demeure en lui. Vous savez, le texte nous dira au verset 30, et on ne l'a pas lu, mais que suivant la mort des premiers-nés, il y a eu un grand cri en Égypte. Imaginez toutes ces familles-là, hein, qui trouvent un enfant qui est décédé. La parole de Dieu nous dit qu'au moment du jugement de Dieu, hein, il va y avoir des grincements de dents, des pleurs. Moi, je veux être dans la joie. Je veux être dans la joie de voir mon Seigneur qui m'a pardonné, qui m'a fait grâce. Veux-tu être épargné du jugement de Dieu pour tes péchés? Demeure en lui. Reçois-le. C'est tellement simple. La parole de Dieu nous dit qu'il ne veut pas qu'aucun périsse. Pourquoi est-ce que tu serais en dehors de sa maison? La délivrance de Dieu est là pour toi. As-tu le courage de marquer, hein, ta vie, ta maison, par l'obéissance à Christ? As-tu le courage de le recevoir comme ton sauveur? Je dis courage parce que oui, ça prend du courage. Moi, je me souviens de mon hésitation. J'ai passé du temps dans l'Église. Hein? Moi, ma mère, elle était chrétienne, elle me parlait de Dieu, hein, depuis que j'étais toute petite. Et comme adolescente, j'étais un an et demi à aller à l'Église au moins deux fois par semaine. Et je n'étais pas sûre. C'est-tu pour moi, cette affaire-là? C'est-tu vrai, cette affaire-là? Il me semble que je suis capable de me débrouiller par moi-même. Et j'argumentais avec ce que je ne savais pas être le Saint-Esprit qui travaillait dans mon cœur. Et un jour, j'ai pris ce pas de foi-là. Et Dieu m'a rencontrée. J'aimerais vous dire, certainement, en Égypte, il n'y avait pas de « un est meilleur que l'autre ». Hein, parmi les Israélites, parmi les Égyptiens. Dieu n'a pas amené son jugement et épargné les Israélites parce qu'ils étaient Israélites ou parce qu'ils étaient meilleurs que les Égyptiens, mais parce qu'ils avaient la foi pour marquer leur maison par le sang du sacrifice de l'agneau et pour demeurer en ce lieu. Nous vivons, frères et sœurs, dans l'espérance du retour de Christ, qui sera une délivrance encore plus grande. Voici que nous avons de nouveaux symboles que Dieu nous donne. Et ce matin, j'ai choisi un texte de l'Écriture du Nouveau Testament qui est peut-être un peu inhabituel lorsqu'on parle de la Sainte Cène. Voici ce que l'apôtre Jean nous dit. Jésus leur dit, alors qu'il a une conversation avec des gens religieux, « en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas de son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange mon corps et boit mon sang, la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai le dernier jour. Celui qui mange mon corps et boit mon sang demeure en moi et moi, je demeure en lui. » C'est ce moment où le Christ va dire qu'il est le pain qui est venu du ciel. Et ici, voici un avant-goût de la Sainte Cène dont il va parler lorsqu'il va dire « Voici, prenez ceci et mon corps, ceci et mon sang », en parlant du pain et du vin ou du fruit de la vigne. Ce n'est pas une option, c'est un commandement. Tu dois entrer dans la famille de Dieu. Dieu t'appelle. Dieu t'invite. Ce matin, il y en a parmi vous qui ont des enfants qui ne marchent pas avec le Seigneur. Le titre, ou le chapitre plutôt, de 12 de l'Exode nous appelle à prendre cette responsabilité de témoigner aussi à nos enfants. Lorsqu'ils te demanderont pourquoi, prenons devant le Seigneur aussi cette responsabilité-là, de témoigner à nos enfants, de les porter dans la prière, parce que la bénédiction est pour eux aussi. Mais ils doivent entrer dans la maison, demeurer. Prions le Seigneur pour eux. Prions le Seigneur parce que c'est pour tous ceux qui voudront partager le repas, pas juste ceux qui sont nés dans l'Église. Tous ceux qui seront prêts à entrer, à faire partie. Pasteur Marc a annoncé qu'il y aura des baptêmes bientôt. Peut-être que pour toi, c'est le temps. On s'identifie à la mort de Christ. On déclare publiquement notre foi, le fait qu'on a choisi de mettre notre confiance en lui pour le pardon de nos péchés, qu'on a été racheté de cette vie-là dépourvue de sens, en passant par les eaux du baptême. Est-ce que Dieu t'appelle ce matin? Bon, la réponse, c'est oui. Ce matin, veux-tu commémorer le sacrifice de Christ? Veux-tu l'enseigner à tes enfants, à ceux qui vont se joindre avec toi dans la vie de la foi? Dans l'Exode, il y avait un peuple diversifié. Ils se sont joints, ils ont fait partie de la famille. Si ce matin, tu as des œillères, tu dis, « Ben moi, je ne veux pas que cette personne-là fasse partie de la famille de Dieu avec moi. Je n'aime pas sa culture, je n'aime pas sa langue, je n'aime pas à quoi il ressemble, j'aime pas, je ne sais pas trop quoi. » C'est le temps que tu changes ta vision des choses. C'est le temps que tu entres dans la famille de Dieu pleinement, qui t'embrasse tes frères et sœurs, figurativement parlant. Donc, c'est important que tu entres dans le plan de Dieu. Parce que lorsqu'on va le louer dans les cieux, lorsque notre délivrance finale sera arrivée, le retour de Christ ou notre aller direct vers lui dans sa présence, on sera là un peuple diversifié ensemble avec lui. Ce matin, reçois le salut de Dieu. Vous savez, je vais terminer avec cette histoire-là. Cette semaine, j'ai visionné un film. Et c'était un film intéressant. C'était l'histoire d'une jeune fille qui est prise captive. Donc, l'ennemi vient, attaque, la prend captive. Et elle doit grandir en captivité, dans cet esclavage-là. Et puis, à un moment donné, il y a une amie qui lui dit, « Écoute, moi, je veux m'échapper de cette captivité-là. Est-ce que tu voudrais venir avec moi et goûter à la liberté? » Et c'est intéressant parce que cette jeune fille-là, au départ, elle lui dit, « Non, c'est trop dangereux. Je ne suis pas sûre que je vais y arriver. » Et alors qu'elle retourne dans la captivité, elle a même un des messieurs qui l'a fait captif qui dit, « Oui, je vais te prendre, tu vas être mon épouse, je vais prendre soin de toi. » Elle semble avoir quand même une belle situation, entre guillemets, au sein de sa captivité. Et puis finalement, elle décide de prendre ce risque-là. Quelque chose qui m'a en fait surpris, parce que je me suis dit, pour moi, elle va décider de rester. Et l'ennemi la poursuit. Donc, ceux qui l'avaient tenue captive la poursuivent alors qu'elle se sauve vers la liberté. Mais finalement, elle goûte à cette liberté-là. L'ennemi n'arrive pas à la rattraper. Je comprends. Cette histoire-là nous explique comment ça peut devenir normal de venir à vivre sans Dieu. On peut même sentir un certain confort et se dire, bon, ça vaut-tu vraiment la peine de s'engager dans la présence de Dieu comme chrétien? Est-ce que je ne vais pas avoir plus de problèmes? Ou peut-être vous avez décidé de faire ce pas-là et vous dites, quoi, Lynn de Bin? Une belle expression québécoise en passant. Colin de Bin, c'est donc bien plus compliqué. Ma vie. Le risque en vaut la peine. Dieu a une liberté pour vous. Dieu a une grande liberté pour vous. Mais comme nous dira le psaume 91, il faut demeurer à l'ombre de ses ailes. Il faut demeurer en Dieu. Ce matin, mon message n'est pas vraiment plus compliqué que ça. C'est d'une grande simplicité et à la fois un grand défi. Puissions-nous recevoir Christ, demeurer en lui? C'est simple. Ce qui est compliqué, c'est mon cœur. Si peut-être tu te dis ce matin, ben, j'arrive pas à avoir cette foi-là que je vois d'autres avoir. Demande à Dieu de venir faire son œuvre dans ton cœur. Invite-le. Et prends ce pas-là de foi. Fais de lui ton sauveur. Donc, peut-être, Samuel, si tu veux mettre le chant sans le vidéo, s'il te plaît. On va juste prendre le temps d'inviter le Seigneur de prier. Si vous voulez, on peut prier pour un enfant, si vous avez un enfant. Pour vous-même, si vous avez besoin de consacrer votre vie à Dieu. Peut-être, on disait en tous les autres, hein, peut-être vous pouvez prendre un temps aussi pour prier pour les gens qui vous entourent, qui ne connaissent pas Christ. Pour qu'ensemble, on puisse entrer dans sa présence. C'est mon rêve, mon espoir. Quand je pense à l'éternité dans la présence de Dieu, j'aime l'image qui me vient, c'est que j'entre comme... Et là, c'est une image, bien sûr, je passe les portes du paradis et il y a des gens avec moi. Je ne voudrais pas entrer seule dans l'éternité. Puissions-nous nous-mêmes ne pas entrer seuls? Et par la foi, par la prière, hein, portons des frères et sœurs et invitons des frères et sœurs à connaître Christ, à s'abandonner à lui. Donc, le chant qu'on va écouter est en anglais et en arabe et nous parle du psaume 91, comment demeurer. Qu'est-ce qui se passe? On est en sécurité lorsqu'on demeure à l'ombre de ses ailes. Éternel mon Dieu, nous venons devant toi aujourd'hui, Père. Nous te disons merci pour ton salut si précieux, Seigneur, qui nous donne la liberté, Père. Merci parce que la sécurité pour nous, c'est de demeurer en toi. Ô Seigneur Dieu, merci parce que tu nous appelles à vivre par la foi, Seigneur Dieu, à démontrer par des signes visibles, Seigneur, notre foi en toi, notre attachement à toi, Seigneur Dieu. Ô éternel mon Dieu, nous ne comptons pas sur nos propres forces, mais nous comptons sur toi, Père. Toi qui étais cet agneau-là immolé, Seigneur Dieu, cet agneau-là innocent, sans défaut, sans péché, Seigneur, tu as pris notre place, Seigneur. Tu nous as invités à faire partie de ta famille, Seigneur, indépendamment de là où on est né, de ce à quoi on ressemble, de notre histoire, Seigneur Dieu, de nos péchés, Seigneur. Merci, Père, pour ce que tu as fait pour nous. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, nous te prions pour ceux qui sont nés dans notre maison, ceux que tu nous as confiés, Seigneur mon Dieu. Puisses-tu les ramener à toi, Seigneur, pour qu'ils puissent te choisir eux-mêmes, Seigneur Dieu. Nous te prions, Seigneur Dieu, aussi pour tous ceux qui nous entourent, nos voisins, nos collègues de travail, ces gens-là que tu as placés autour de nous, et même ces peuples étrangers-là que nous ne connaissons pas, Seigneur Dieu. Ô Père, voudrais-tu ajouter à ta famille, Seigneur Dieu, afin qu'ensemble nous puissions entrer dans ta délivrance, éternel mon Dieu. Donc ce matin, alors que nous prenons, Seigneur Dieu, le pain, le vin, Seigneur Dieu, nous voulons vraiment nous souvenir de toi, de ce que tu as fait pour nous, de ta grande délivrance. Merci, Seigneur Jésus, nous prions. Amen.